Là, je viens du sud de la France. Qui connaît Montélimar? Montélimar dans le sud de la France? Oui, on voit qu'il y a une gourmande dans ce lieu. Voilà, parce que Montélimar, c'est le pays du nougat. C'est là où on fabrique le nougat. Voilà, je viens de cette belle région du sud de la France. Voilà, je suis en tournée depuis samedi dernier, ça va faire bientôt une semaine. Voilà, j'ai été à Sedan, en France. Ensuite, on est allé à Botassar. Hier, j'étais sur Namur. Et demain, direction la région parisienne, où j'ai 4 interventions, une émission de télévision. Et je termine dans une grande église à Paris. Alors, c'est vraiment une joie. Merci à votre pasteur de m'avoir accueilli ce soir. Voilà, au milieu de vous, voilà, je ne suis pas né chrétien, je ne suis pas né avec la foi. Il y a des années en arrière, mon Dieu à moi, c'était le Dieu du sport. Non pas que Dieu est contre le sport, ni contre la réussite professionnelle, mais à mon niveau, le sport était mon Dieu, c'était mon idole. J'étais un véritable passionné, mais voilà que le 19 janvier 1989, j'ai fait une rencontre avec le Dieu vivant. Moi qui étais venu dans ce lieu étant incrédule, pour moi il n'y avait pas de Dieu, ce soir-là, Jésus-Christ a transformé ma vie. Et je suis passé du monde du sport à Dieu. Je suis passé, j'étais un homme sans espoir et en Dieu j'ai trouvé le véritable espoir. Voilà, j'aimerais vous en introduction de mon témoignage, passer une vidéo. Il y a 25 ans en arrière, j'étais ce champion cycliste. J'ai gagné beaucoup de victoires, beaucoup de titres. Voilà, c'était il y a 25 ans en arrière, même 28 ans pour certaines photos. Voilà, j'étais jeune, j'étais fort, j'étais beau, mais c'était avant, hein. Voilà. Et ce jeune homme que vous allez voir va devenir chrétien, authentique et plus tard pasteur. Voilà. Dans ma vie, il y a un avant, il y a un après. Et tout simplement, ce soir, J'aimerais vous partager ce qui s'est passé dans ma vie, ma rencontre, comment je suis passé du monde du sport à la foi. Voilà, dans cette période de succès, dans cette période de gloire, dans cette période de réussite, j'avais réussi dans la vie. Un de mes oncles m'a invité à venir écouter l'évangile comme ce soir, et le verset qui a créé la foi en moi, le verset de la parole de Dieu qui a bouleversé ma vie, se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 26, et ce verset était celui-ci: « Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ?» Cette parole a été une parole vivante qui a su trouver le chemin de mon cœur. Alors moi, je n'ai pas eu le privilège de grandir dans une famille chrétienne, je n'ai pas eu d'éducation chrétienne, je n'ai pas été enseigné dans des valeurs spirituelles. Pour moi, mon Dieu à moi, c'était le Dieu du sport. Mon père était coureur cycliste, c'était un champion cycliste, et dans la famille, nous étions vraiment des passionnés de sport. Et à l'âge de 7-8 ans, mon père me prenait avec lui pour aller faire du vélo, pour aller voir des courses cyclisme le dimanche après-midi. Et lorsque j'ai vu pour la première fois un homme lever les mains vers le ciel comme signe de victoire, à ce moment-là, dans mon cœur d'adolescent, dans mon cœur d'enfant, va naître en moi une passion. Une passion pour le sport. Je me suis dit, voilà, je veux devenir un champion cycliste. Lorsque nous étions à l'école, le professeur nous posait la question, il disait à la jeune fille, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? La jeune fille dira, moi je vais être coiffeuse, le garçon dira, moi je vais être mécanicien, et toi Mario, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi je répondais, je veux être un champion cycliste. Et le professeur disait, mais c'est pas un métier. Mais moi je dis, si, je veux être un champion. Pour moi, le sport, c'était mon identité, c'était ma raison de vivre. Mais entre le rêve et la réalité, il y a tout un travail de consécration, d'investissement. Voilà. Et moi, dans ma vie, il y avait vraiment ce désir, cette hargne en moi de vouloir devenir un champion. C'était ma raison de vivre. Je me disais, où je réussis, où je meurs. Et voilà que, à l'âge de 14 ans, j'ai demandé à mes parents de me permettre de m'inscrire dans un club pour pouvoir participer à des compétitions. Et là, mon père, qui était coureur cycliste, mais qui n'avait jamais gagné de course, va me dire, voilà, je pense que tu n'es pas capable de devenir un champion, parce que ça demande une hygiène de vie, ça demande des heures et des heures d'entraînement, de consécration. Et mon père va me dire, voilà, et je pense que toi, tu n'es pas capable. Et lorsqu'il va me dire que je suis pas capable, ça va déclencher en moi un déclic. Et je me suis dit, je vais te prouver que je suis capable. Peut-être que moi, j'ai pas eu le privilège d'avoir un père qui vous montre de l'affection. Moi, j'ai pas le souvenir d'un père qui me prend dans ses bras et qui me dit « Mon fils, je t'aime ». Voilà. Chez nous, peut-être, chez les Italiens, on dit que nous sommes pudiques dans nos sentiments, dans l'expression de notre affection et de notre sentiment. Et mon père a eu le modèle d'un papa qui ne lui a pas montré aussi d'affection et d'amour. Et voilà, il a reproduit avec moi la même chose. Mais moi, quand j'étais adolescent, pour moi, dans ma tête, je me disais « Il m'aime pas ». Mon père ne s'intéresse pas à moi. Ma vie a aucune valeur à ses yeux. La preuve, c'est que mon père, il était dans le foyer. Mes parents ne sont pas divorcés. Mais il était comme un étranger. Impossible de dialoguer tous les deux. Impossible d'avoir des moments de partage comme un père et un fils. Et pour moi, c'était une souffrance. La preuve, c'est que mon père, il était pour moi, à mes yeux, un étranger. Impossible de l'appeler papa. Voilà, pour vous c'est naturel, mais pour moi c'était difficile. Mais quelle souffrance en moi. Et inconsciemment, certainement, je me suis dit que si je deviens un champion, peut-être que mon père va s'intéresser à moi. Peut-être que ma vie à ses yeux aura de la valeur. Peut-être au plus profond de moi, c'est ce que j'ai pensé. Mais à force de détermination, à force de persévérer, mes parents ont accepté qu'à l'âge de 14 ans, je signe ma première licence. Quelle joie! Je touchais du bout des doigts mon rêve de devenir un athlète de haut niveau, de gagner des courses, de devenir un champion. C'était vraiment ce qu'il y avait là au fond de mes tripes. Et voilà que j'ai commencé à m'entraîner très durement, des heures et des heures d'entraînement. Mes parents, à l'âge de 16 ans, m'ont permis d'arrêter les études pour pouvoir me consacrer à 100% dans ma discipline. Et voilà que au bout d'une année, vous avez vu certains quelques articles, Nakarato vainqueur à tel endroit, Nakarato triomphe dans telle ville, et là, le 1er juillet 1989, j'ai remporté ma première victoire. Et là, ce jour-là, il y a un moment intense, parce que lorsque vous franchissez la ligne en vainqueur, il y a une émotion. Il y a une joie parce que derrière tout ça, il y a des heures d'entraînement, il y a des heures d'investissement. Et quelle satisfaction lorsque vous gagnez une course. Alors ce jour-là, il y avait une double joie. La joie d'avoir remporté ma première victoire, mais aussi ce jour-là, le 1er juillet 1985, dans la région de Thionville, lorsque j'ai gagné ma première course, mon père m'a pris dans ses bras et il m'a embrassé. C'était un moment intense. Et là, je me suis dit, oh, il m'aime. Ma vie, à ses yeux, j'ai de la valeur à ses yeux. Et c'était vraiment une joie dans mon cœur, parce que dans la famille, je faisais la fierté de la famille. Dans ma famille, c'est une famille nombreuse. Du côté de mon père, ils sont 10, et du côté de ma mère, 14 enfants. Mes grands-parents étaient très, très romantiques. C'est ce qui explique la grande famille. Voilà, c'est des Italiens. Voilà. Et j'avais mon fan club. J'avais ma famille qui était fière de moi, de voir mon nom dans les journaux, les photos, etc. Et moi, je me dis, voilà, j'ai réussi. J'ai réussi dans la vie, j'ai réussi mes objectifs. J'avais une carrière professionnelle qui s'ouvrait devant moi. Et ce qui était étonnant, c'est que malgré mes victoires, malgré mes succès, malgré ma réussite professionnelle, il y avait un vide en moi. Voilà, lorsque vous gagnez des courses, ça devient comme une drogue. On en veut toujours plus. Il y a une émotion, il y a quelque chose. Mais malgré la réussite, malgré mes victoires, malgré les trophées qu'il y avait à la maison, il y avait un vide intérieur. Alors je me disais que peut-être si je gagne telle course, telle victoire, tel titre, peut-être que le vide de mon cœur sera comblé. Et j'étais un jeune homme qui était très angoissé. J'avais peur de la mort. Peur de demain, si demain j'ai un accident et que je dois arrêter ma carrière, qu'est-ce que je vais devenir? Et parfois le soir je me réveillais avec une angoisse qui me saisissait et je criais au secours et ma mère devait venir me consoler et me rassurer. Voyez, malgré la réussite professionnelle, malgré mes succès, il y avait un vide terrible à l'intérieur de moi. Alors je montrais une apparence devant les journalistes, sur le podium, devant le public, mais au fond de moi, il y avait ce vide intérieur. Et dans cette période, il y a Angelo, mon oncle. Mon oncle n'a pas eu d'éducation chrétienne. Mon grand-père, c'est un Sicilien. Voilà, ça fait un peu mafieux, hein. Voilà, il arrivait de la Sicile et lui disait que son Dieu, c'était son portefeuille. Et il a éduqué ses enfants. Ses enfants n'ont eu aucune valeur spirituelle que la Bible enseigne. Et mon oncle, c'était un jeune de la rue. C'était le monde de la violence. C'était les règlements de compte. C'était le monde de la drogue. Et voilà qu'un jour, il va apprendre que dans la ville de Talange, dans ce petit village de l'est de la France, il y a dans la salle des fêtes un prédicateur. C'était la mission de Billy Graham dans les années 80. Qui s'en souvient? Non, vous êtes trop jeune pour ça. Voilà. Ça remonte dans les années 80 et il y avait là un impact mondial, international, où l'évangile était annoncé par satellite. Et là, mon oncle, avec ses amis, des jeunes de la rue, ils se sont dit, on va rentrer dans cette salle des fêtes où Dieu est annoncé et on va dire à tous ces gens que Dieu n'existe pas. On va se moquer des gens. On va leur dire que c'est de la folie. Mon oncle, il est allé dans ce but-là. C'était de se moquer, parce que pour lui, il n'y avait pas de Dieu. Il mélangeait Dieu avec la religion, et pour lui, c'était du grand n'importe quoi. Alors, il est allé dans la salle des fêtes, avec sa bande de copains. Et là, pour la première fois, il va entendre la parole de Dieu. Et le prédicateur va dire, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, Angelo, il va entendre un message d'amour, que Jésus est venu il y a 2000 ans, comme un simple homme. Il était venu partager la souffrance des hommes, et ce Jésus, il était mort sur une croix, et sur cette croix, il a pris notre malédiction, il a pris notre péché, et que Dieu l'avait ressuscité, et que ce Jésus pouvait changer les vies, il pouvait transformer les cœurs, il pouvait donner un nouveau départ. Et là, mon oncle, il est devant un message, non pas un message religieux, mais un message d'espoir, un message de délivrance, un message d'amour. Et là, Angelo, qui était venu il était venu dans le but de se moquer, il est reparti à la maison. Aucun s'est moqué du prédicateur et de la parole de Dieu. Et Angelo, il est intrigué, il dit, mais vraiment ce Dieu, il est vraiment amour, il aime l'individu. Et là, Angelo, son passe-temps, c'était d'aller cambrioler dans des maisons. Voilà, drôle de passe-temps, hein. Parce qu'il n'a pas de valeur, c'est un jeune de la rue. Voilà. Et il rentre dans une maison un soir pour la cambrioler. Et qu'est-ce qu'il va trouver? Qu'est-ce qu'il a trouvé ce jour-là? Dans cette maison? Une pièce. Non, il a trouvé mieux que ça. Il trouve une Bible. Voilà ce qu'il a trouvé. Vous voyez, Dieu a de l'humour quand même, hein. Voilà. Parce que Dieu cherchait Angelo. Dieu n'est pas venu pour une catégorie d'hommes. Dans le cœur de Dieu, il y a de la place pour tout le monde. Pour le bas tombé, pour celui qui a réussi dans la vie. Qu'importe notre classe, notre niveau social, notre couleur, notre origine, Dieu nous aime. Le cœur de Dieu n'est pas rétréci, mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et Angelo, il prend la Bible, il la met sous son bras et il rentre à la maison. C'est la seule chose qu'il a volée ce soir-là. Et là, il est intrigué. Il commence à lire la Bible, du début jusqu'à la fin, parce qu'il veut découvrir qui est ce Dieu. Ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui a le pouvoir de changer les vies. Et là, Angelo, le lendemain, il va dans la rue et il va rencontrer des chrétiens authentiques, qui aiment Jésus, qui ont la foi, qui font de l'évangélisation, c'est-à-dire qu'ils invitent des personnes à venir à l'église, à écouter la bonne nouvelle de l'évangile. Parce que l'évangile, c'est une bonne nouvelle dans un monde où nous sommes bombardés de mauvaises nouvelles. Et là, Angelo, il est invité, écoute, viens ce soir, la bonne nouvelle de l'évangile est proclamée. Et Angelo, il est venu. Et ce soir-là, Angelo a ouvert la porte de son cœur et il a donné une place à Jésus. Angelo a confessé Jésus comme son sauveur. Il a dit à Jésus, Jésus, je suis perdu, j'ai besoin que tu pardonnes mes péchés. Et ce soir-là, Angelo, il est passé des ténèbres à la lumière. Jésus a transformé sa vie. Dieu l'a arraché du monde de la violence et de la drogue. Et Angelo, il est devenu un authentique chrétien qui aime Jésus et il va devenir un passionné de Jésus. Vous savez, lorsque vous avez une bonne nouvelle, vous ne pouvez pas la garder pour vous. Vous devez la partager. Et c'est ce qu'Angelo y a fait. Il a commencé à parler de Jésus, de son expérience à ma grand-mère, à ma tante, à mon grand-père. Et mon grand-père, lorsqu'il a entendu que Angelo était devenu chrétien, il était dans une violence terrible. Mais rien ne pouvait arrêter Angelo. Il savait en qui il avait cru et il va lui parler de Jésus. Ma grand-mère a donné sa vie à Jésus. Elle s'est convertie, elle qui était dans la religion imprégnée. Elle a fait sa propre expérience avec Jésus. Anne-Marie, ma tante, pour vous dire que l'évangile, c'est pas une nouvelle religion, mais c'est une puissance de Dieu qui est capable de changer l'intérieur de notre vie. Ma tante, Anne-Marie, pareil, c'est une jeune fille de la rue, c'est un garçon manqué qui se bagarre, qui est violente, qui est remplie de haine, parce que elle, l'amour qu'elle lui a manifesté, c'était les coups par son papa. Elle a connu la violence et elle était agressive. Et le jour, Anne-Marie est venue à l'église et elle-même a fait une expérience avec Jésus-Christ. Sa vie a été transformée. Et là, l'évangile va commencer à se propager dans toute ma famille. Là où régnait la sorcellerie, là où régnaient les ténèbres, la lumière de l'évangile est venue resplendir dans ma famille. Ma famille de Liège, qui ne connaît absolument pas Dieu ni l'évangile, se sont convertis à Jésus-Christ. Voyez, l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Et voilà que Angelo, il est sur ma route et il me rencontre et moi je pensais qu'il allait me dire, écoute, je suis fier de toi, j'ai vu ton nom dans les journaux, tous les lundis matins dans le journal des sports, on voit ta photo. Alors moi je pensais qu'il était venu dans ce but-là pour me féliciter, pour me dire, voilà, je suis fier de toi, tu as réussi dans ton domaine. Et voilà que Angelo va me dire, voilà, c'est bien, tu as peut-être réussi, mais j'aimerais te dire que tu es perdu. Comment ça, perdu? Pour moi, perdu, c'est ceux qui avaient échoué dans la vie. C'était les gens bas tombés. Moi, je lui disais, j'ai réussi dans la vie, à force de volonté, à force de consécration, j'ai réussi. Et toi, tu me dis que je suis perdu. Mais dis, écoute, tu sais, la mort, c'est le sort de tous les hommes. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, on doit tous passer par là. Mais la Bible nous dit, il va se servir de la parole de Dieu, il va me dire que nous avons un corps. Et ce corps-là, c'est une enveloppe. Et un jour, ce corps, il retournera à la poussière. Mais chaque être humain, nous avons une âme éternelle. Parce que c'est Dieu le Créateur. Et nous, nous sommes ses créatures. Et là, il va me dire que mon âme, si je meurs ce soir, elle est perdue. Elle partira dans l'éternité loin de Dieu, qui s'appelle l'enfer. Ça sera une souffrance éternelle. Il les cache, lui, hein. Il me dit les choses, voilà, parce que la Bible nous dit qu'il y a un paradis, mais il y a un enfer. Mais Dieu, dans son amour, ici-bas, il donne à tous les hommes de mettre sa vie en règle. Parce que Jésus, il veut nous sauver. Et il va me dire que ma vie, elle a de la valeur, mon âme a de la valeur. Mais moi, dans cette période, il n'y a pas de place pour Dieu. Parce que moi, je suis un passionné. Et moi, dans ma conception humaine, je pense que Dieu, c'est quoi? Donner sa vie à Dieu, c'est devenir un religieux. C'est devenir un moine. Voilà, c'est d'être malheureux. Plus rire, plus jouer, plus s'amuser. Voilà là, l'image que j'ai de Dieu. Moi, je suis un passionné. Et moi, pour Dieu, Dieu, il a aucune place dans ma vie. Je l'ai exclu de ma vie parce que moi, c'est mon Dieu, c'est le Dieu du sport. Voilà ce qui prend la première place dans ma vie. Et voilà que dans cette période, vous savez, vous qui êtes chrétiens, il y a des chrétiens au milieu de nous, j'aimerais vous encourager, persévérez dans vos prières. Persévérez dans votre témoignage. Peut-être que tu as un fils. Tu as une fille, tu as un mari, une épouse, quelqu'un de ta famille. Ça fait des années que tu parles de Dieu. Ça fait des années que tu pries pour eux. Mais j'aimerais vous dire, vous savez combien de temps Angelo a persévéré? Pendant 6 ans. Pendant 6 ans, il m'a parlé de Dieu. Pendant 6 ans, il a prié pour moi. Et pendant 6 ans, je l'ai rejeté. Moi, à la fin, au bout de la 6e année, je pouvais plus supporter le nom de Dieu qui sortait de sa bouche. Moi, je suis pas chrétien, hein. Dans ma vie, il y a les fibres italiennes, siciliennes, calabraises qui est là, qui ont envie de réagir. J'ai envie de lui mettre un coup de tête. Je peux plus supporter. Mais lui, il lâche pas l'affaire. Il persiste. Mais j'aimerais vous dire que un jour, Dieu entend nos prières, mais aussi Dieu exauce nos prières. Et Dieu va me donner dans ma vie un rendez-vous divin. Et il y a eu tout un cheminement, combien Dieu a été patient envers ma vie. Et voilà que Angelo, j'ai mon ami Patrice. Patrice, c'est un champion d'athlétisme. Il est prélectionné pour les Jeux Olympiques. Et Patrice, lui, il a une grande influence sur ma vie. Lui, pareil, il n'y a pas de Dieu. Lui, il est attiré par tout ce qui est hard rock, black metal, cette musique, voilà, qui l'entraîne à avoir plein de haine et de méchanceté. Patrice, lui, il est attiré par le diable. Il aime les choses diaboliques. Et Patrice, lorsqu'il doit faire une compétition, il prend la photo de ses concurrents, il prend des aiguilles et il maudit ses concurrents. Voilà, pour vous dire combien il était habité du mal. Et voilà que Patrice, un jour, il vient à la maison et il voit sur ma table de chevet, il voit une Bible. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais avec cette Bible? Et il me dit, voilà, pour vous dire combien Dieu n'avait aucune place dans ma vie. Il m'a dit, prends cette Bible et jette-la au feu. Et sous son influence, j'ai pris la Bible lorsque j'étais adolescent et je l'ai jetée au feu. Et là, tous les deux, avec un sourire moqueur, on s'est moqué de voir les pages de la Bible s'enflammer. Vous voyez, Dieu n'avait aucune place dans notre vie. Pour nous, il n'y avait pas besoin de Dieu. Dieu n'existait pas. Dieu ne pouvait rien faire pour nous. Nous, notre Dieu à nous, c'était le Dieu du sport. Et voilà que Angelo va rencontrer Patrice. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Angelo, il a dit, voilà, celui-là, il est trop diabolisé, il est trop rempli de haine. Est-ce que Angelo, il a eu peur, il a fui? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Angelo, le chrétien authentique, va rencontrer Patrice, qui est habité du mal? Il a tremblé? Qu'est-ce qu'il a fait, Angelo, quand il a rencontré Patrice? Est-ce qu'il s'est sauvé en courant? Il dit, oh là là, lui, il n'y a plus d'espoir pour lui, on ne peut rien faire pour lui. Angelo va parler de Jésus. Il lui a rendu témoignage. Parce que Dieu aimait Patrice. Il n'approuvait pas ce qu'il faisait. Mais Dieu aime l'individu. Et là, Angelo va lui dire, écoute, ce soir, il y a une réunion où la bonne nouvelle de l'évangile est proclamée. Tu es le bienvenu. Et là, Patrice, il va venir à l'église. Mais ce jour-là, il est venu à l'église accompagné d'un objet. Il rentre dans l'église et il est venu avec un poignard. Pour vous dire combien il était habité du mal, combien son cœur était rempli de haine. Et là, il s'est dit, voilà, dès que quelqu'un va proclamer le nom de Jésus, je vais tous les tuer. Et là, ce jour-là, la réunion était en italien. Patrice est un Français. Et là, on va inviter Patrice à venir devant. Et il y a un jeune homme de 22 ans qui va lui proposer, écoute, viens à côté de moi, je vais te traduire la prédication d'italien à français. Et là, quand le jeune homme ignorait que Patrice avait un couteau, et là, pendant qu'il traduisait le message de l'évangile, il voyait un couteau rentrer et sortir, rentrer et sortir. Et là, le jeune chrétien, il y avait des gouttes qui coulaient. Et il disait, Seigneur, garde-moi, j'ai pas envie de mourir, Seigneur, t'as vu, j'ai envie de me marier. Mais ce jour-là, ah oui, mettez-vous à sa place, le pauvre. Je l'ai revu des années après, il m'a raconté cette scène, ce qu'il a vécu. Mais là, c'était plus un homme qui contrôlait la réunion, mais c'était la présence de Dieu. Ce jour-là, l'amour de Dieu était beaucoup plus puissant que la haine qui habitait le cœur de Patrice. Et pendant 35 minutes, la bonne nouvelle de l'évangile a été proclamée. Et là, le prédicateur va faire un appel. Si quelqu'un au milieu de nous veut donner sa vie à Jésus, qu'il s'approche comme un signe d'engagement et qu'il vienne devant. Et la première personne qui va se lever ce jour-là, c'est Patrice. Là, il ne fait plus le malin, il est devant la grandeur de Dieu, il est devant la grandeur de l'amour de Dieu, il est vraiment l'amour de Dieu, et comme un poignard qui transperce son cœur, et il ne peut plus, ses larmes coulent de ses yeux, il commence à confesser, Jésus, je suis perdu, tu vois, je suis habité par le mal, mais toi, Jésus, à la croix, tu as vaincu le diable, tu as vaincu le péché, Jésus, je suis sans espoir, et ce prédicateur me dit que tu peux changer ma vie, et ce soir-là, Patrice a donné sa vie à Jésus. Il est passé des ténèbres à la lumière. Sa vie a été complètement transformée. Dieu a arraché le mal de son cœur et il a été rempli de l'amour de Dieu. Ses péchés ont été pardonnés et Dieu va lui donner un nouveau départ. Mais pour moi, il y a un problème. C'est maintenant, ils sont deux à me parler de Jésus. Une semaine, c'est Angelo qui me parle de Jésus. L'autre semaine, c'est Patrice. Mais je dis, mais ce Dieu, il me cherche vraiment. Mais je dis, il va pas me lâcher. Et j'étais touché parce que malgré ma dureté, malgré ma rébellion, Dieu était patient avec moi. Ce qui me touchait, c'est de savoir que Dieu ne s'imposait pas à moi, mais il se proposait. Et là, j'y mets vraiment ce Dieu. Il m'aime, il me tend une main à chaque fois. Il permet des circonstances, il met Patrice sur ma route, etc. Et voilà que nous sommes en 89... Je me prépare pour ma saison 89 avec des objectifs, avec des nouvelles victoires, etc. Et là, Patrice m'invite à venir dans une réunion de jeunesse. Déjà, moi, je suis étonné de savoir que dans une église, il y a des jeunes. Parce que pour moi, l'église, c'était les personnes âgées, c'était les vieillards en fin de vie. Et de savoir qu'il y avait des jeunes, voilà, ouais, complètement faussé dans ma conception de voir les choses de Dieu, la spiritualité, voilà. Et j'avais vraiment besoin d'avoir une révélation de ce Dieu vivant. Et là, Patrice, il me dit, écoute, ce soir, il y a une réunion de jeunesse, il y a une bonne ambiance, il y aura de la musique, tu es le bienvenu. Et là, je me suis dit, je vais accepter au moins une seule fois. Comme ça, je serai débarrassé de leur Dieu, de l'évangile, etc. Mais voilà que 2 heures plus tard, il y a deux de mes amis qui m'invitent, non pas à l'église, eux, ils sont pas chrétiens, ils m'invitent dans une boîte de nuit. dans une discothèque. Moi, j'ai 19 ans, j'ai envie de découvrir la vie. Je connais pas le monde de la nuit. Voilà. Et là, il me dit, écoute, au programme, il y aura de la drogue, il y aura de l'alcool, il y aura des jolies filles, etc. Et au lieu d'aller à l'église, je suis allé dans cette boîte de nuit. Alors, je me suis dit, voilà, peut-être que dans cette boîte de nuit, dans ce dancing, je vais peut-être trouver la paix intérieure. Parce qu'en fin de compte, dans toutes ces années de gloire, de réussite, de victoire, j'étais à la recherche d'une paix intérieure que le sport ne pouvait pas me procurer. Voilà, il y avait ce vide. Alors je me dis peut-être que dans cette soirée, je vais trouver un peu de paix, de joie pour combler le vide de mon cœur. Et là, je suis rentré dans cette discothèque et j'ai vu des gens ivres, sous l'influence de l'alcool. Et là, il y a un homme qui se lève et qui me dit, tu vois, lui je le connais. Si quelqu'un me cherche la bagarre, j'ai juste à claquer des doigts et ils viennent me défendre. Et au même moment, il me provoque. Et là, je réfléchis, je dis, voilà, si je lui lève la main, voilà, il y a 15 gaillards qui vont me tomber dessus. Alors j'écoute, on va régler les comptes à l'extérieur. Et là, le portier a ouvert la porte, et là, j'ai dû battre le record des 100 mètres d'athlétisme. Dites pas, je suis un lâche, j'aurais fait la même chose, hein. Je suis parti en courant. Il est 4 heures du matin. J'emprunte un petit chemin. On appelait ça le chemin noir, parce que c'était un chemin en terre glaise. Et là, en face de moi, je vois un jeune homme arriver. On est au mois de décembre, il est 4 heures du matin, c'est dans l'est de la France, il fait très froid. Et là, je vois un jeune homme, pour moi, c'est le jeune homme en question qui m'a provoqué. Je dis, voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à serrer les poings et frapper. Il n'y a plus qu'à se défendre. Et qui je vois à 4 heures du matin sur ce petit chemin? Jésus. Je vais le voir, Jésus, plus tard. Pas encore. Patrice ou Angelo? T'es sûr? Il y en a qui n'ont pas encore lu mon livre. Voilà. Qui je vois à 4 heures du matin? Je vois Patrice. Je vois Patrice. Et là, moi, je suis touché. Il me dit, tu vois, Mario, c'est pas le hasard. Dieu te cherche. Dieu t'aime. Et il cherche le chemin de ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Donne-lui une place. Et là, je suis vraiment touché parce que mon ami, je le connais, il sort du monde du sport, je sais d'où il vient, j'ai vu sa vie transformée. Et là, je réalisais, mais vraiment, je dis, ce Dieu, il m'aime vraiment. Il me lâche pas tant qu'il m'a pas trouvé. Et là, je sais pas si vous avez déjà vécu le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Hein, lorsqu'on perd son portable, voilà, on a perdu presque son salut. Lorsqu'on perd sa télécommande ou ses clés, voilà. Bon, ça, c'est du matériel, hein. On retourne la maison. Mais lorsque vous perdez un être cher, lorsque vous perdez quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimez. Il y a quelques années, j'ai 3 enfants. Ma deuxième, qui avait à l'époque 3 ans et demi, nous étions dans une grande surface, dans un supermarché, et on l'a perdu dans cette surface. Et là, on cherche pendant 5, 10, 15 minutes, 20 minutes, dans le moindre recoin. Et tant que vous ne l'avez pas retrouvé, on se met à la recherche et à la recherche. Et pendant 35 minutes, vous recherchez, vous mettez à la recherche tant que vous ne l'avez pas retrouvé. Et quelle joie lorsque vous retrouvez celle que vous aimez. C'est un drôle de sentiment, c'est terrible. Lorsque vous perdez quelque chose, voilà, qui vous tient à cœur. Et c'était la même chose avec Dieu. J'avais le sentiment que Dieu, lui, il me cherchait. Malgré ma réussite professionnelle, malgré mes victoires, j'étais perdu sur le plan spirituel. La plus grande tragédie pour un être humain, c'est d'être perdu, aller tout droit en enfer. Ça, c'est vraiment une réalité que la Bible nous enseigne. Et moi, j'étais perdu sur le plan, j'avais peut-être réussi dans la vie, mais avec Dieu, ma vie était un véritable échec. Et j'avais besoin d'être sauvé. J'avais besoin que mes péchés soient pardonnés. Et voilà que nous sommes en 89, je prépare ma nouvelle saison. Il est le 19 janvier, il est à peu près 19h30. Il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Qui est-ce? Le 19 janvier 1989. Angelo ou Patrice? Angelo! Angelo! Avec son beau sourire, il lâche pas l'affaire, lui! Il me dit, écoute, ce soir, il y a la bonne nouvelle de l'évangile qui est annoncée. Tu es le bienvenu. 28 ans plus tard, je ne peux pas vous dire pourquoi j'ai accepté. Ce soir-là, je lui ai dit, je viens à la réunion. Ce que j'ai su plus tard, c'est que pendant des années, il y avait tant de temps, il y avait l'église qui priait pour moi, qui disait « Oh Dieu, révèle-toi dans la vie de Mario, tu vois, il est complètement aveuglé par la gloire, par son sport, par sa passion. Seigneur, touche son cœur. » Voilà, Dieu entend la prière, mais aussi Dieu est celui qui agit, Dieu n'est pas sourd. Et voilà que je rentre pour la première fois dans une église évangélique. Moi, les prières que je connaissais, c'était des prières religieuses, c'était une récitation, c'était une formule de mots. Lorsque j'avais 7-8 ans, ma mère m'a dit « Écoute, ce serait bien que tu fasses ta communion ». Alors moi j'ai hésité et j'avais appris que lorsque tu fais ta communion, qu'après tu avais des cadeaux. Alors j'ai accepté, j'ai dit tant qu'à faire, au moins par intérêt. Mais pour moi, là, c'était rien du tout, là. Et j'entendais ces religieux qui priaient, blablabla, blablabla. Voilà. Mais lorsque je suis rentré pour la première fois dans cette église évangélique, lorsqu'on arrive dans un nouveau lieu, on est très observateur. Et j'observais, j'écoutais ces gens. Et là, pour la première fois, j'entends des gens qui disaient « Oh Jésus, merci parce que tu as sauvé ma vie. Tu as donné un sens à ma vie. J'étais perdu, mais en toi, j'ai trouvé la vie. » Et là, je dis « Mais ces gens, ils aiment vraiment Dieu. » J'avais le sentiment qu'ils priaient comme si Dieu était là à côté d'eux. C'était leur spontanéité, leur sincérité. Je dis, mais vraiment, ils aiment Dieu. Et moi, là, dans mes pensées, à ce moment-là, ça a été un champ de bataille. Dans ma pensée, il y a cette pensée qui est venue me traverser. Et là, à ce moment-là, c'était plus un homme qui contrôlait la réunion. C'était la personne du Saint-Esprit. Et là, la pensée qui est venue me traverser l'esprit, prie toi aussi. Prie. Et moi, je dis, mais qu'est-ce que je vais prier ? Pour moi, c'était un Dieu inconnu. Prie, vas-y. Et là, je me suis dit, voilà. Et ça se passait. J'étais au fond de l'église. Surtout, je ne voulais pas participer. Ce soir-là, j'ai pas dit, voilà, ça y est, j'ai capitulé. Je vais me convertir au christianisme. J'ai compris que je suis dans l'erreur. Pas du tout. Voilà, je suis venu en spectateur. Mais là, Dieu m'avait donné un rendez-vous divin. C'était mon jour J où Dieu allait trouver le chemin de mon cœur. Et là, la prière que j'ai formulée, c'était... Je me suis dit, bah écoute, oh Dieu, je vais démarrer ma nouvelle saison 1989, permets-moi cette année de gagner beaucoup de courses. Tant qu'à faire, j'ai demandé à Dieu, voilà, donne-moi de gagner des courses. Et là, avec mes mots à moi, c'est ça la prière, c'est parler à Dieu avec ses mots, avec son cœur. Et là, une autre pensée est venue traverser mon esprit et je me dis, mais qu'est-ce que je vais prier ? Vas-y, mais ferme les yeux. Regarde tous ces gens-là, ils ferment les yeux. Non pas qu'il y ait une règle avec Dieu, mais je me suis dit, peut-être que si je ferme les yeux, peut-être ma prière, elle va être efficace. Peut-être que Dieu va entendre ma prière. Je me dis, voilà, peut-être ça fait plus religieux. Et là, la pensée que j'ai eue, je me l'ai quelques mois en arrière, nous étions dans les Vosges. Qui connaît les Vosges ? Nous étions autour des Vosges. Dans les Vosges, ça descend, ça va très vite. Et nous étions à peu près à 90 km/h. Et il y a un chien qui a traversé au milieu du peloton. Et mon ami Thierry a frappé la tête contre le sol. Et il s'est tué. Et là, la prière que j'ai formulée avec les yeux fermés, j'ai dit à ce Dieu inconnu, « Oh Dieu, garde-moi, protège-moi de tout accident. » Et pendant que mes yeux sont fermés, pendant que mes paupières sont fermées, moi je ne suis pas quelqu'un de déséquilibré, je ne suis pas un fanatique, mais ce soir-là, pendant que mes yeux sont fermés, il y avait là la révélation de l'amour de Dieu. À ce moment-là, la présence de Dieu était si forte. Moi qui avais dit « il n'y a pas de Dieu, Dieu n'existait pas », je me suis senti enveloppé d'un amour, d'une présence, d'une paix que je ne connaissais pas. Et là, pourtant, mes paupières sont fermées. Je voyais une lumière blanche, une révélation d'une blancheur, d'une pureté. Et ça représentait la pureté de Dieu, la sainteté de Dieu. Et moi qui étais orgueilleux, qui disais qu'il n'y a pas de Dieu, je me suis mis à pleurer. Et là, sous la conviction de cette présence de Dieu, j'ai vu le film de ma vie passer dans ma conscience. Et pour la première fois, je me suis senti coupable. Le jour, j'ai revu pendant ce film, pendant quelques secondes, le jour où j'ai pris la Bible, lorsque j'avais 15 ans et que je l'ai jetée au feu, j'ai vu les jours, les fois où je me suis rebellé contre Dieu, toutes les fois où j'avais commis le mal. Et là, devant cette blancheur, devant cette lumière, c'était comme un miroir. Je pouvais voir l'état de mon âme, l'état de mon cœur. Je me sentais si sale, si noir. Et là, j'ai commencé à formuler une prière. J'ai dit, oh Jésus, je suis perdu. Seigneur Jésus, tu vois, Seigneur, j'ai besoin de toi. Moi qui disais, j'ai pas besoin de Jésus. Mais là, je me suis senti si petit. Et j'ai réalisé que c'était pas mes trophées, c'était pas mes victoires qui pouvaient me sauver. Mais le seul qui pouvait me sauver, qui pouvait me pardonner de mes péchés, qui pouvait blanchir et laver mon cœur, c'était le sang de Jésus. Parce que lui, Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, son sang qui a coulé, c'était le sang d'un innocent. Lui, il était sans tâche, il était sans péché. Et là, j'ai dit à Jésus, et je pleurais, impossible de retenir mes larmes. Et là, le prédicateur qui ne connaissait pas ma vie va prendre la Bible et il va citer, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et il va dire, il va recevoir un message prophétique. C'était le pasteur Guy Bergamini. Tu veux devenir champion du monde, tu veux gagner le monde, mais ton âme est perdue. Mais il y a 2000 ans, Jésus est venu sur cette terre. Il est venu, on l'a crucifié sur une croix. Et moi, lorsque j'apprends que Jésus est crucifié et qu'il est mort, je me dis, mais quel échec! Et là, le prédicateur va dire, non, Jésus, ce jour-là, il a remporté la plus grande des victoires. Et il veut faire de toi un véritable vainqueur. Un véritable vainqueur, c'est celui qui peut dire non au péché, qui peut marcher dans la sainteté et dans la pureté. Et moi, j'étais pas capable. Et voilà, et cette victoire, il te la donne par amour. Et là, je réalise et je suis conscient que Jésus, il est le sauveur et que lui, il peut sauver ma vie et que lui, il peut me donner une vie nouvelle et un nouveau départ avec lui. Et là, le prédicateur va dire, si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus, qu'il se lève et qu'il vienne devant. Et moi, j'aurais pu me cacher derrière des excuses et dire, voilà, j'ai ma carrière. Qu'est-ce que mes directeurs sportifs vont penser? Qu'est-ce que mes parents vont dire? De dire, voilà, je suis devenu chrétien. Et là, j'ai mis tout ça de côté. Parce que c'était un moment solennel, c'était entre Dieu et moi. Il était question de vie ou de mort. Il était question de passer où j'allais passer mon éternité. Parce que après la mort, il y a une vie. C'est des questions qu'on se pose. Et ce soir-là, je suis confronté devant l'amour de Jésus. Mais ce qui m'a touché, Dieu n'était pas là pour m'écraser, pour m'humilier. Mais il était là pour me dire, voilà, je t'aime et je veux te sauver. Et ce soir là, j'ai 19 ans, c'est la première fois que je vis à l'église, je me suis levé et j'ai traversé toute l'allée centrale et pour la première fois j'ai dit à Jésus, Jésus, je t'ouvre mon cœur et je te donne ma vie. Jésus, je te donne la première place dans ma vie. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Viens comme mon sauveur. Et là, ce soir-là, moi qui avais un vide dans mon cœur, ce soir-là, c'était comme un fleuve de la paix, de l'amour de Dieu, de la joie de Dieu, qui était en train de m'inonder. Ce soir-là, j'avais l'assurance que mes péchés étaient pardonnés. La culpabilité qui était en moi a été arrachée. Je me sentais léger. Et là, il y a eu une joie, une paix intérieure qui est venue m'inonder. Et ce soir-là, je suis passé de la mort à la vie. Ce soir-là, je suis né nouveau. C'était une nouvelle vie. Et là, il y a eu une joie, une paix. Je savais que mon âme était sauvée, que si j'allais mourir demain ou après-demain, comme le pasteur disait, j'avais cette assurance que j'étais sauvé. Et Jésus vraiment a transformé ma vie et il a fait de moi un passionné de Jésus. Et j'ai fait de Jésus ma priorité, j'ai fait de Jésus ma passion. Et là les gens ont dit, mais t'inquiète pas, c'est un feu de paille. Le feu il dure depuis 28 ans et je vis ma vie chrétienne avec passion. Non seulement Dieu a fait de moi un chrétien authentique, la foi est née dans moi, mais il va faire de moi plus tard un prédicateur et un pasteur. C'était pas prévu au programme ça. Vous voyez, parce que moi je me sentais pas capable, j'étais très timide, j'avais un blocage, impossible de m'exprimer devant des gens, et pendant des années j'ai dit à Dieu, non, moi je suis pas capable, j'ai pas les capacités, et Dieu m'a dit, je sais que t'es pas capable, c'est pour ça que t'es choisi, mais moi je vais te donner les capacités, moi je vais te rendre capable, et là j'ai vécu ma vie, non pas comme un religieux, mais depuis 28 ans, je vis ma vie chrétienne avec passion, ça vaut la peine de donner sa vie à Jésus. Moi je pensais que donner sa vie à Dieu, c'était la gâcher, c'était d'être triste, c'est faux, ça vaut la peine, Dieu a donné un sens à ma vie, non seulement Dieu m'a sauvé, mais il s'est occupé de ma vie professionnelle, parce que je lui ai donné la première place. Il s'est occupé de ma vie sentimentale. Je suis marié depuis 24 ans, j'ai 3 enfants, et c'est formidable, et moi j'aimerais vous dire, voilà, donner la priorité à Dieu. Laisse une place à Jésus. Donne-lui toute la place à Dieu. Et tu verras que ta vie va changer. Tu verras que c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue avec Jésus-Christ. Non seulement Jésus m'a sauvé, mais il a changé l'intérieur. Il a enlevé la haine de mon cœur. Et il a remplacé ça par son amour et par ses sentiments. Voilà, j'aimerais qu'on passe une photo. J'ai encore 5 minutes, pasteur. Ça va? Voilà. Dans le monde du sport, j'avais un ennemi, c'est Vincent. Vincent, tous les deux, il y a une rivalité. On est deux Siciliens. Et voilà, c'est la loi du plus fort. Voilà, il n'y a pas de place pour le faible dans le sport de haut niveau. Et Vincent, voilà, lorsque j'allais gagner une course supplémentaire, pour pas que je gagne, il s'est jeté sur moi à 60 km/h. Et ça a fini en bagarre à coups de poing. Il y avait vraiment de la haine. Et voilà que moi, je me suis converti au christianisme et je suis dans l'église chaque dimanche matin avec mon épouse. On loue Dieu, on adore Dieu. Et qui je vois dans l'église? Vincent, mon pire ennemi de l'époque. Et lui, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et j'ai dit, toi, qu'est-ce que tu fais dans l'église? Il me dit, j'ai donné ma vie à Jésus. Ça fait plusieurs années, je me suis converti au christianisme. Je lui ai dit, moi aussi. Et dans l'église, on s'est pris dans les bras. C'était quelque chose de fort, nous qui étions remplis de haine, et j'ai demandé à Vincent il y a quelques années, j'ai dit, je vais écrire mon livre, est-ce que tu me permets d'écrire un chapitre de notre histoire? Et le titre c'est « Deux ennemis deviennent amis et frères dans la foi ». C'est vraiment ce que Dieu a fait. Voilà, nous sommes d'ennemis que nous étions, nous sommes devenus des véritables amis. Et vraiment, Dieu a enlevé la haine en nous et il nous a réconciliés. Moi, j'étais pas capable de pardonner Vincent. Lui non plus. Mais voyez, quand Jésus vient dans notre cœur, il nous donne la capacité de pardonner ceux qui nous ont fait du mal, de pardonner nos ennemis. Et le véritable pardon, il est libérateur. Et peut-être quelqu'un a besoin de pardonner quelqu'un. Peut-être vous avez été victime d'abus, vous avez été victime de violence. Mais Dieu est capable et Dieu a enlevé la haine de notre cœur. Non seulement Dieu, nous sommes devenus des amis. Aujourd'hui, Vincent, c'est un homme d'affaires. Il a une entreprise à Bogota, en Colombie, et il sert lui-même Jésus-Christ. Vous voyez ce que Dieu a fait de nous? Il a fait de nous des serviteurs. Et ensuite, plus tard, je suis devenu son pasteur. Il était dans l'église, il travaillait avec moi. Je disais, Vincent, fais ça. Vincent, tu vas là-bas. Et il disait, ok. Vous voyez, il n'y avait plus de haine entre nous. Vous voyez, l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Voilà, j'avais beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais qu'on termine la conclusion. C'est, que s'éveillerait-il, hein, la diapo? On va prendre encore 2 minutes. Conclusion de mon témoignage. Que s'éveillerait-il? Vous prouvez, voilà, que... À quoi servirait-il à l'homme de gagner le monde? Moi, pour ma part, c'était de gagner des médailles, de gagner des coupes. Hein. C'est pas que Dieu est contre le sport ou contre la réussite, mais c'est une histoire de priorité. C'est là le danger. C'est quand Dieu est au second plan. Que serait-il un homme de gagner le monde, d'être le plus connu des hommes, de battre le record de l'audimat s'il perdait son âme? Et on va voir 2 exemples de cette réalité. Voilà. Vous savez, ici en Belgique, la légende, il y a un des grands champions ici en Belgique, c'est Eddy Merckx. 5 Tours de France, 600 victoires, c'est une légende. Et on soupire après le futur Eddy Merckx. Et il y a quelques années, Igor, le grand espoir du cyclisme belge, Igor, il est champion du monde, il a 18 ans, il est médaillé d'or, il est au sommet de sa gloire. Et les gens en Belgique disent, voilà, on a trouvé le futur Eddy Merckx. Il a tout pour être heureux, il a la célébrité, il a l'argent, il est au sommet de sa carrière. Et un an plus tard, après son titre de champion du monde, regardez ce qu'il est écrit. La Belgique est sous le choc. Ce samedi 30 août 2014, le jeune prodige du cycliste belge Igor s'est donné la mort. Il avait à peine 18 ans. Et là, on dit, que s'éveillerait-il un homme de gagner le monde, d'être champion du monde, s'il perdait son âme? Et vous savez, comme Igor, il est mort, il s'est jeté sous un train en Belgique. Et là, on se dit, mais pour commettre cet acte, il devait être malheureux. Il y avait un vide, et je sais ce que c'est ce vide intérieur. Rien ne pouvait combler ce vide. Alors vous allez me dire, c'était un sportif de haut niveau. Certainement, peut-être, il devait shooter ou droguer. Mais regardez, j'aimerais vous donner un deuxième exemple pour terminer. Vous avez connu l'acteur Robbie Williams?
Non.
Hein? Ben, c'est quelqu'un qui... Tu regardes ses films, tu vas rire, tu vas pleurer de rire. C'est quelqu'un, voilà, qui... Moi, j'ai regardé des films avec lui, il nous a tout fait, il nous a tous fait rire, il montrait une apparence joyeuse. Mais regardez cet homme, ce qu'il va dire, Robbie Williams, il est au sommet de sa carrière, il a réussi. J'ai toujours pensé que le pire truc qui pourrait nous arriver dans une vie, c'est de finir sa vie tout seul. Mais c'est faux. Le pire truc qui pourrait nous arriver, c'est finir notre vie entouré de personnes qui nous font sentir seuls. Et c'est étonnant de voir que nous sommes presque 6 milliards. Et combien de solitude, combien de gens se sentent seuls. Et pourtant, voilà, et regardez comme il va finir sa vie, lui qui a réussi sa carrière professionnelle, on peut passer. L'acteur humoriste américain a été retrouvé sans vie à son domicile le lundi 11 août 2014. Robbie Williams a mis fin à ses jours en se pendant à l'âge de 63 ans. D'après la police, il aurait été retrouvé pendu à une ceinture avec un couteau à côté de lui. Son poignet gauche était entaillé et l'acteur combattait une dépression sévère depuis plusieurs années. Et combien la dépression aujourd'hui, c'est le mal du siècle, voyez. Il est célèbre, il a réussi, mais il est foudroyé par la dépression. Et il va mourir seul, il va mettre fin à ses jours, malgré ses enfants, malgré sa famille. Voyez, à quoi servirait-il à un homme s'il perdait son âme? Et voyez, c'est une histoire de priorité. Quelqu'un, on peut réussir dans la vie, mais si on n'a pas Dieu dans sa vie, on a tout perdu. On peut être riche, on peut être célèbre, il y a ce vide et ce manque. Mais Dieu nous a donné un remède. On peut passer le cœur en forme de Dieu. Et voilà le remède que Dieu nous a donné face au mal, face au péché, face au désespoir. Voilà, Dieu est amour. Le verbe donner apparaît plus de 1000 fois dans la Bible, voyez. Et encore ce soir, Dieu veut nous donner. Il veut nous donner la vie, il veut nous donner le salut. Il veut te donner de l'espoir. Voilà, c'est le... Voilà, saint Augustin a dit, tu nous as fait pour toi et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne trouve pas le repos en toi. Le célèbre philosophe Blaise Pascal va dire une vérité, ouais. Il y a dans le cœur de chaque homme un vide en forme de Dieu. Ouais, tu peux passer. Il va dire un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme qui ne peut être rempli par aucune chose qui ait été créée, mais seulement par Dieu, le Créateur, qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus-Christ. Alors les gens essaient de combler ce vide. On va le voir. Voilà. Non pas que Dieu est contre ces choses, mais regardez. On essaie de combler ce vide par l'argent. Mais on a vu que c'est par le sport, ça c'était mon cas. Par la gloire. Mais le remède, il est là. C'est Jésus. Et ce soir, je suis venu tout simplement vous annoncer cette bonne nouvelle, c'est Jésus. Il a changé ma vie il y a 28 ans. Et il peut le faire pour vous ce soir. Parfois, on vient à l'église, on écoute Dieu, mais dans notre cœur, il y a un partage. Donnez à Dieu la première place. Faites de Dieu votre priorité et vous verrez, votre vie va être changée. Voilà, j'aimerais prendre une minute, pendant que les yeux sont fermés. J'aimerais prier pendant une minute. Seigneur, je te remercie, Seigneur. Tu vois, j'ai partagé. Merci pour ce pasteur, pour cette église qui me reçoit, de ce pasteur qui m'a permis de partager notre histoire. Notre rencontre, Seigneur. Merci parce que toi, Jésus, il y a 28 ans en arrière, tu as changé ma vie. Tu as donné un sens à ma vie. Tu m'as donné la vie éternelle. Tu m'as donné l'assurance que mes péchés étaient pardonnés. Mais Seigneur, ce soir, Seigneur, il y a dans ce lieu des jeunes, des moins jeunes. Tu leur dis que leur vie ont de la valeur à tes yeux. Et j'aimerais te dire, mon ami, ce soir, ta vie a de la valeur. Tu te dis, ma vie n'intéresse personne. Non, 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 Dieu t'aime, ta vie a de la valeur. Seigneur, je te prie, ce soir, tu peux encore sauver. Seigneur, sauve ce soir. Le plus beau trésor d'un être humain, c'est de recevoir Jésus. Seigneur, je veux croire que ce soir, tu veux toucher des cœurs. Tu veux remplir des cœurs. Tu vois, il y a des vides intérieures. Mais Seigneur, viens sauver, viens pardonner. Viens changer les vies ce soir, là où il y a du désespoir. Toi, tu es l'espoir de l'humanité, tu es l'espoir pour l'homme. Pendant que les yeux sont fermés, c'est un moment solennel. J'aimerais donner la possibilité à une personne, à deux personnes, de dire oui, j'ai besoin de Jésus. Je veux faire une place à Jésus dans ma vie, dans mon cœur. Je veux lui faire toute la place. Pendant que les yeux sont fermés, nous sommes dans le respect. On n'est pas là pour regarder à gauche et à droite. Mais c'est un moment entre Dieu et vous. Y a-t-il quelqu'un qui veut faire cette démarche? Tout simplement, voilà, je vous invite à lever votre main comme un signe d'engagement et dire oui, je veux de Jésus, j'ai besoin de Jésus, je veux être secouru ce soir, j'ai besoin d'une intervention divine. Y a-t-il quelqu'un qui veut de ce Jésus? Jésus a le meilleur pour vous, il vous aime. Levez tout simplement votre main à votre place, pendant que les yeux sont fermés. Oui, gloire à Dieu, Dieu t'a vu, jeune homme. Vous savez, votre main qui se lève, Dieu ne la prend pas à la légère. Jésus va devenir votre sauveur, il va devenir votre ami. Vous ne serez plus seul. Il va vous accompagner, il va vous protéger. Il veut le meilleur pour vous. Y a-t-il une autre personne qui veut dire, oui, j'ai besoin de Jésus. Je m'adresse aux jeunes, aux moins jeunes. Dieu vous aime. Vous levez tout simplement votre main à votre place, devant Dieu comme un signe d'engagement. Oui, Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides, que tu me secours. Je veux te faire une place. Y a-t-il une personne qui veut encore, qui a besoin de Jésus, qui veut lui faire une place à Jésus, lui donner, Jésus vous aime. Vous savez, Jésus n'a pas eu honte. Il y a 2000 ans, il a quitté sa gloire, il a quitté la gloire du Père. Il est venu sur la terre, on l'a frappé, on l'a mis nu sur une croix. Il n'a pas eu honte pour toi. N'ayez pas honte, je sais c'est un combat. Mais ne laissez pas passer Jésus ce soir. Il passe ici, il frappe à la porte de votre cœur. Laisse-lui une place. Laissez-vous toucher par son amour. Y a-t-il encore une personne qui a besoin de Jésus? Vous savez, un jour dans le ciel, le Seigneur vous montrera ce moment-là. On n'aura plus d'excuses. Je ne suis pas là pour vous mettre la pression. Mais j'aimerais donner l'occasion à une autre personne de dire, oui, j'ai besoin de Jésus. Ça demande de l'humilité. Mais combien Dieu, votre vie va être transformée. Y a-t-il une autre personne qui a besoin de Jésus, qui a besoin de son secours ce soir? Ce Dieu qui a touché ma vie, il veut encore toucher des vies ce soir. Il veut toucher votre vie. Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble? Comme ça, personne verra qui a levé sa main. Et pendant que je vais prier, voilà, vous pouvez prier Dieu. Vous pouvez demander à Dieu de vous aider. Et il va venir dans sa présence. Il va venir jusqu'à vous. Seigneur, merci pour ces personnes qui ont eu l'audace, qui ont eu le courage, Seigneur. Seigneur, tu vois, peut-être certains n'ont pas eu le courage, mais Seigneur, toi, ce soir, tu regardes à leur cœur. Au nom de Jésus, je prends autorité dans le nom de Jésus. Souviens-toi, il y a 2000 ans, ton sang précieux a coulé pour cet ami. Seigneur, au nom de Jésus, je prie, reçois maintenant le pardon de tes péchés. Maintenant, le salut entre dans cette vie. Et maintenant, ce soir, il y a de la joie, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui passent de la mort à la vie. C'est toi qui produis le miracle de la nouvelle naissance. Tu vois ce cœur qui est vide, Seigneur. Tu le remplis de ta présence, dans le nom de Jésus. Seigneur, ce soir, c'est une défaite dans le camp de l'ennemi. Et Seigneur, merci parce que ce soir, tu sauves, tu délivres, tu transformes les vies par l'action du Saint-Esprit. Et ce soir, nous voulons dire, c'est toi, Jésus, le champion. C'est toi le vainqueur, parce qu'à la croix tu as vaincu le péché, à la croix tu as vaincu la mort. Et Seigneur, nous voulons célébrer la victoire de Jésus. Nous voulons dire merci pour ta victoire. Le ressuscité est dans ce lieu et il transforme les vies. Est-ce que nous pouvons applaudir le Jésus? Est-ce que nous pouvons lui rendre toute la gloire? Alléluia. C'est lui le champion. Merci Seigneur pour les vies sauvées. Alléluia. Et à toi revient toute la gloire dans le nom de Jésus. quelqu'un a besoin de prière, il y en a plusieurs qui sont là qui peuvent aussi intervenir pour vous aider, prier pour, avec vous, il y a plein de problèmes. Le Seigneur vous aime. Vraiment quelque chose de particulier ce soir, c'est une soirée merveilleuse. Il y a un rendez-vous divin comme ça, c'est pas par hasard. Quand on se trouve quelque part et que l'évangile est proclamé, je peux vous assurer que c'est pas un hasard. C'est une opportunité extraordinaire que Dieu nous donne.